Avant, je n'écoutais jamais les discours de Jacques Chirac. Mais depuis les émissions de la Bastille, j'y suis, décodant le discours de Jacques Chirac, je me suis amusé à les écouter. Et je viens d'en entendre un tout à l'heure à France Inter, et je suis réellement déçu. Jacques Chirac ne dit plus le mot « naturellement ». Alors, écouterait-il là-bas si j'y suis ? Dans ce cas, je lui envoie un amical bonjour. Bonjour, monsieur le Président.
Oui, bonjour. Il est vraiment trop drôle, ce Michel, Édouard Leclerc. Je pense que vous devriez repasser son intervention de ce matin dans le 7-9. Ça devrait bien faire rire les gens qui travaillent dans ces établissements. Bonne journée, salut, merci.
Je m'appelle Jean-Paul, j'habite Arles. Ce matin, à France Inter, j'ai pu entendre un débat sur la vente du nom du musée du Louvre comme un vulgaire label au profit de Dubaï. Le conservateur du musée d'Orsay, qui participait à ce débat, était favorable à cette opération et a essayé de nous convaincre. Cette dernière opération d'un pouvoir politique en fin de règne dans notre pays a de quoi nous révolter. Mais là n'est pas mon seul propos. J'ai en mémoire le titre d'un livre écrit par Lucie Mazoric, épouse d'André Chanson et compagnon de guerre de André Malraux. Le livre de Lucie Mazoric s'intitule, écoutez bien, « Le Louvre en voyage ». Elle y raconte comment elle participa sous la direction de Jacques Jaujard, directeur des musées de France, au sauvetage de nos œuvres entre 1939 et 1945 afin de les soustraire aux nazis. Ces œuvres quitteront le Louvre pour être transférées de château en château, depuis Chambord jusqu'à Montauban. Et cette histoire se terminera bien en 1946 avec l'exposition de la peinture française au musée du Petit Palais, dont André Chanson était devenu conservateur. Voilà mon propos. Autre temps, autre mœurs. Sous l'occupation des conservateurs résistés, aujourd'hui, certains préfèrent les pétrodollars. Merci.
11h48, France Info, on m'annonce que le Congrès va se réunir à Versailles fin février pour entériner trois réformes. Et dans ces trois réformes, il y en a une qui concerne le statut pénal du chef de l'État. Et puis c'est tout. Et on ne me dit pas qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme. Alors j'ai vraiment l'impression que M. Chirac se permet tout et que ce statut du chef de l'État en réforme va lui permettre certainement de ne pas être poursuivi pour tout ce qu'il a pu faire comme magouille lorsqu'il ne sera plus président de la République. À moins que je me trompe. Mais j'aimerais bien avoir des précisions là-dessus. Et puis si on n'est pas en République bananière, ça y ressemble bien quand même. Ben voilà, c'était le PDB en direct du Lot-et-Garonne. Au revoir.
Allô Daniel, bonjour, Sylvain Loison de Vittel. J'appelle parce que, après dans l'émission sur la sémantique, enfin le sens des mots des présidents, après avoir réfléchi sur le sens de la vie, l'intérêt d'exister dans une société qui bouge, etc. Nous avons eu une publicité qui nous indique qu'un idéaliste qui dit « cherchons la liberté, cherchons la paix » et derrière, le message s'arrête en disant « il faut arrêter de capitaliser ». Ouais, ce serait marrant qu'il le repasse juste avant d'ailleurs. Et puis, tout le monde s'arrête et dit « ah non, la liberté d'accord, mais pas aux dépens du capital, pas aux dépens de cet idéal merveilleux du consommateur ». C'est-à-dire, c'est nier à l'homme toute possibilité d'avoir ou un idéal, ou avoir une aspiration à comprendre, et surtout nier le fait que des gens peuvent s'intéresser à des choses, même si c'est pas directement leur intérêt. Donc, c'est-à-dire, on nie l'homme pour n'en faire qu'un consommateur. Au secours ! Alarme, Daniel ! Résistons à ce genre de discours pourri ! C'est abominable, surtout après ton émission. Ça veut dire quelque part qu'ils te méprisent, qu'ils méprisent tes auditeurs. C'est une manière de tourner en dérision et dire, voilà, c'est nous qui sommes les plus forts et D'une certaine manière, je pense que c'est là que le véritable enjeu des problèmes qui vont se présenter. Bon, je suis un petit peu agacé, excuse-moi, hein, Daniel. Hein, bon, à bientôt.
On a tous droit à la liberté. Ouais, c'est cool. On a tous droit à la paix et à l'amour.
Paix et amour.
Oublions le capital.
Oh ben non, ah ben non,
à la Caisse d'épargne, l'assurance vie Nuance 3D, c'est un taux exceptionnel de 4,25% garanti en 2007. C'est ce qu'on appelle une performance.
Ah, ben voilà. Mais oui, paix et performance.
Nuance 3D à la Caisse d'épargne. On a tous droit à la performance. Taux attribué sous certaines conditions. Renseignez-vous dans votre agence Caisse d'épargne.
Eh oui, Mirabeau nous avait prévenu, l'homme est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles et l'idéologie dominante ne passe pas forcément par les voix, les gosiers que l'on suppose et que l'on écoute attentivement, elle peut passer aussi par derrière. Et c'est le cas évidemment dans cette pub, ça vous a pas échappé, nombreux sont les auditeurs qui ont laissé des messages sur cette pub. Cela dit, que les babas cool soient ou deviennent de bons capitalistes, on l'avait remarqué, que les libertaires deviennent de bons libéraux, on l'avait également remarqué, on a même appelé ça il y a pas mal d'années déjà les Lili, libertaires libéraux, mais voilà, et ben on le savait et on vérifie une fois de plus que l'autruche capitaliste, l'autruche du capitalisme peut tout avaler, y compris AA, mais c'est pas sûr, nous-mêmes en tous les cas, aujourd'hui on se retrouve avec l'équipe du Monde Diplomatique, le mensuel, le Monde Diplomatique, autour de ce numéro de janvier 2007, avec notamment plusieurs interventions que vous allez écouter, si vous voulez bien, jusqu'à 16h, mais je vous conseille d'être très attentif à ce qui sera dit sur Internet, parce que il y a un papier remarquable dans le diplôme de ce mois-ci sur Internet, vu par un chercheur américain. C'est tout de suite dans la base où j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de notre chère émission 01 56 40 37 37.
Ah, bonjour Daniel Vermeil. Il y a des années que je vous écoute et j'en profite justement pour vous dire que nous ouvrons à Marignac, un petit bourg de 500 habitants, dans la Haute-Garonne, au sud de la Haute-Garonne, à 3 km de Saint-Béat, un repère de là-bas si j'y suis. Alors nous commençons le jeudi 11 à 18h30. Si tout le monde pouvait venir, beaucoup de monde pouvait venir, ce serait très intéressant pour tous. Alors je répète, c'est au café Sandarin à Marignac le jeudi 11 à 18h30. Merci Daniel et surtout continuez. Au revoir.
Un message pour les AMG, nous nous retrouverons ce soir à Ploubalet, chez Marie et Pierrot, à 20h, donc le mardi 9 janvier, à 20h, chez Marie et Pierrot. À bientôt.
Dans les maisons, dans les cafés, dans les bistrots et dans les bars, dans tous les lieux publics disposant d'une télévision ou d'une radio, les habitants de la capitale, tous plus calmes les uns que les autres, attendaient le résultat final du scrutin. Personne ne confiait à son voisin pour qui il avait voté. Les amis les plus intimes gardaient le silence. Les personnes les plus loquaces semblaient avoir avalé leur langue. À 10h du soir, enfin, le Premier ministre apparut à la télévision. Il avait un visage décomposé, des cernes profonds, le résultat d'une semaine entière d'insomnie. Un teint terreux malgré un maquillage du genre santé éclatante. Il tenait un papier à la main qu'il s'abstint presque de lire. De temps en temps, il y jetait un coup d'œil pour ne pas perdre le fil de son discours. « Chers citoyens, dit-il, le résultat des élections qui ont eu lieu aujourd'hui dans la capitale du pays est le suivant. Parti de droite, 8%. Parti du centre, 8%. Parti de gauche, 1%. Abstention, 0. Bulletin nul, 0. Bulletin blanc, 83%. » Il s'interrompit pour porter à ses lèvres le verre d'eau posé à côté de lui. C'est de José Saramago, extrait de La Lucidité. À méditer.
Bonjour, ça serait simplement pour annoncer un débat public à la Maison des Associations à Royan le 12 janvier à 20h30. C'est organisé par la Ligue des Droits de l'Homme et c'est pour le droit au logement. Voilà, ça fait un an qu'on travaille dessus et c'est pour le logement au pays royanais et ça tombe bien qu'on l'ait organisé pour ce jour-là. Voilà, si ça pouvait être annoncé, vendredi 12 janvier à 20h30, Maison des Associations à Royan. Merci.
Bonjour, ici Louise Bonne-Nouvelle. Alors bravo aux faucheurs volontaires. Mais le droit à vivre dans un environnement sain est aussi défendu par le collectif des déboulonneurs. Ils luttent contre l'invasion publicitaire. Et il y en a 7 qui passent en procès ce 12 janvier au tribunal correctionnel 29e chambre à Paris. C'est à 9h, donc rendez-vous à 9h pour le procès. Ou bien, et en même temps, rassemblement de soutien, 4 boulevards du Palais, métro Cité à Paris. Merci, au revoir.
Oui, bonjour. Je reçois un mail de France Télécom ce matin que je trouve vraiment magnifique. Parce qu'on me propose un système qui permet de voir le numéro de téléphone que l'émetteur pourrait masquer. Mais je me rappelle quand même qu'on nous a vendu à un moment un système qui permet de masquer le numéro. Mais avant ça, on nous avait vendu, avant même, le système qui permettait de montrer le numéro. Donc bientôt, on va nous vendre le système qui permettra de masquer le numéro qui était apparent et qui était masqué et qui était apparent. On n'est pas loin de la machine à enculer les mouches.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec l'équipe du Monde Diplomatique. Pas si diplomatique que ça. Flight number 2, arriving from... Alors voilà, on est avec l'équipe du Monde Diplomatique. Il y a beaucoup de monde hein, aujourd'hui. Ils sont remontés à bloc là au diplôme pour cette nouvelle année. Et on va commencer par parler du Hamas. Dominique Vidal.
Oui, c'est un article de Paul Delmotte, qui est un universitaire bruxellois, très bon spécialiste de ce qui se passe en Israël et en Palestine. Et il fait un article sur les raisons pour lesquelles le Hamas ne reconnaît pas Israël. Voilà. On a à la fois cet embargo international, israélien, américain, européen, qui réduit les deux tiers des Palestiniens à la misère. Et on a, en même temps, et c'est évidemment pas sans rapport, cette guerre civile qui menace entre le Hamas et le Fatah. Et dans cette situation, un certain nombre de nos confrères ont un peu tendance à faire porter le chapeau au seul Hamas. Non pas qu'il n'y ait rien à dire sur la politique et les pratiques du Hamas, y compris le fait qu'il ait été, pendant des années, l'instigateur d'attentats kamikazes dont on sait quel service terrible ils ont rendu à la politique israélienne. Mais cela dit, il faut, et c'est ce que fait Paul Delmotte, essayer de comprendre comment le Hamas raisonne, parce qu'il y a dans ce raisonnement des choses qui méritent réflexion et réaction. Ce que dit Delmotte, c'est d'abord que le Hamas, au fond, ne fait que tirer les leçons de l'échec du Fatah et de l'OLP, qui ont mis de longues années à reconnaître l'État d'Israël, et qui n'en ont tiré absolument aucun bénéfice, ni pour de réelles négociations débouchant réellement sur une solution de paix, ni a fortiori pour la construction d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. En gros, on demandait à Arafat de reconnaître Israël, et quand il l'a fait, on lui a rien donné pour autant. C'est la première raison, sans doute, de l'attitude du Hamas. La deuxième, on dit souvent, mais c'est la vision islamique qui domine dans la réflexion du Hamas. En fait, Delmotte montre que quand on regarde de près l'évolution et des textes programmatiques et de la politique même, des déclarations du Premier ministre et des autres ministres, on voit qu'au contraire, la dimension strictement islamique, religieuse, est de moins en moins présente. Et c'est notamment le cas, il le montre très bien, Delmotte, quand on compare la charte de 1998, la fameuse charte du Hamas, à son programme électoral de 2005 et a fortiori au programme du gouvernement élu en 2006. Le nouveau Hamas, si on peut dire, est beaucoup plus nationaliste et social que religieux. Troisième point plus précisément sur la question de la Palestine, c'est vrai que le programme gouvernemental de 2006 cite le Coran, mais il le cite de manière extrêmement vague et rapide. Il ne reprend pas la thèse selon laquelle, en vertu de ce que dit le Coran, il serait impossible de laisser la Palestine à d'autres qu'à des musulmans, ce qui est souvent la thèse mise en avant. Et au contraire, on a aussi bien dans le programme des prisonniers, qui sert aujourd'hui de base de négociation en vue d'un gouvernement d'union nationale, que dans les déclarations, en particulier du Premier ministre Hanyeh, de plus en plus de références à la légalité internationale, à l'édification d'un État palestinien aux côtés donc, de l'État d'Israël, donc à la perspective, disons, de deux États. La dernière réflexion que je voulais citer, il y en a bien d'autres dans l'article, porte sur la question de la légitimité d'Israël. Parce qu'on fait comme si c'était elle qui était en cause. Mais en réalité, d'où vient la légitimité d'Israël, quand on y réfléchit de plus près? La promesse faite par Dieu à Abraham est évidemment valable pour ceux qui croient à l'Ancien Testament, au Talmud, mais elle n'est pas forcément loi pour les autres, qu'ils soient tenants d'autres religions ou athées. Le génocide est évidemment un élément majeur, qui a été d'ailleurs à l'origine de la création, à proprement parler, de l'État d'Israël, ou plus exactement du partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Mais ça n'est pas non plus un argument de caractère universel. Bon, en tout cas, c'est difficile de le faire reconnaître comme tel par l'ensemble de la communauté internationale, a fortiori par le monde arabe et islamique. Quand on y réfléchit bien, et c'est une thèse que Edward Said avait défendue dans le monde diplomatique avec beaucoup de force à plusieurs reprises, la vraie légitimité du partage de la Palestine, donc de l'existence d'un État juif aux côtés de l'État palestinien à naître, c'est la reconnaissance d'Israël par les Palestiniens et par le monde arabe. Et au fond, et je conclue là-dessus, ce que dit Delmotte, et on l'avait un peu développé dans les mois qui sont passés depuis l'élection du 25 janvier 2006 qui a vu la victoire du Hamas, c'est que quand on demande au Hamas de reconnaître Israël, c'est une démarche légitime, évidemment, mais elle supposerait qu'on demande aussi à Israël de reconnaître le droit des Palestiniens à un État, et ça n'est toujours pas le cas, loin de là.
عايشين ورا سجون البنود اللي سجنين لنا ما يتغير مش حاسين ورا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونا ازرق غير ما ابيض بالنص جمال زكراك انت بغير انا صامد عايش متفائل ما تعزل مني الامل بيجي ضار فاصل السور يدور انا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض جذور شجر زيتون ضل تولد وتجدد وتجدد قصور غصن ممدود السلام معروض الاحتلال ما يريد استسلام ليه انا اللي ما الي حريه لاني انا رافض اني اعيش بعبوديه
وين ما رح بشوف حدود سجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه وين ما رح بشوف حدود سجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه
احنا بندور على السلام بين قوات حرب رواد حرب معهم صرنا اولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج اطفال العالم الحرة دايما نضل بتدحرج للحياة المرة قواتنا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم مخدين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعسف للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بيدينا جربنا نخدها فمتنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حريه
وين ما رحت اشوف حدود سجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه
نريد جيلا غاضبا نريد جيلا يصلح الافاق وينتش التاريخ من جذوره وينتش الفكر من الاعماق نريد جيلا قادما مختلف الملامح لا يغفر الأخطاء لا يسامح لا ينحني لا يعرف النفاق جيلاً رائداً عملاق.
Le 28 mai 1994, le principal animateur de la RTLM, Kantano Habimana, s'adresse aux jeunes miliciens du quartier de l'abattoir à Kigali. Il les appelle à défendre le pays des Bahutus contre les Tutsis, un groupuscule de 10% qui est d'ailleurs en train de se réduire, dit-il. Les Tutsis qu'il intitule soit Inkotani, c'est-à-dire les maquisards du FPR, soit Inyenzi, c'est-à-dire les cafards, et il invite les Interahamwe, ces miliciens, à fumer du chanvre et à s'approvisionner suffisamment en drogue afin de mieux combattre l'ennemi. On voit donc comment la RTLM assure de cette façon un contact permanent avec les miliciens des barrières et les encourage dans la poursuite de leur travail meurtrier. Tout cela traité sur le mode de la plaisanterie.
On continue avec le diplôme de ce mois de janvier, avec un long papier de Colette Brackmann sur le Rwanda. Alors là, c'est la grande polémique actuellement sur le Rwanda, suite aux actions du juge Bruguière. Très difficile à résumer en quelques mots. Anne-Cécile Robert va s'y employer. Écoutez bien.
Très difficile, effectivement, d'autant plus que l'histoire du Rwanda est une histoire qui a été refaite un petit peu de part et d'autre. Et il est très difficile aujourd'hui de faire le départ du vrai et du faux dans ce qui s'est passé au Rwanda, même depuis la fin de la colonisation. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire officielle du gouvernement rwandais, qui est issu de la lutte qu'il a menée contre les auteurs du génocide. Et il y a l'histoire officielle des autorités françaises qui sont, impliquées dans l'histoire récente du Rwanda par la coopération militaire qui avait lieu entre les deux pays. Donc il est très difficile de faire le départ du tien et du mien. Et l'intérêt de l'enquête que nous publions ce mois-ci dans le diplôme, l'enquête de Colette Brackmann, c'est qu'elle revient sur l'enchaînement des faits et sur les motivations des différents acteurs de la crise actuelle. Puisque vous savez que la situation est très grave, puisque les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda ont été rompues, ce qui est quand même assez rare dans la vie internationale, et que ça fait très longtemps que des tensions montent entre les deux pays, chacun s'accusant des pires maux. Et on est arrivé à une situation extrêmement tendue, et les mandats d'arrêt lancés par le juge Bruguière ont un petit peu mis le feu aux poudres, provoquant donc la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Est-ce que Colette Brackmann fait, c'est d'une part démonter le rapport Bruguière, dans lequel elle relève un certain nombre d'erreurs factuelles, mais surtout elle interroge les intentions politiques. Parce que si le juge Bruguière a mené une enquête pendant très longtemps, ce qui est frappant, c'est qu'il émaille son rapport d'accusations très politiques sur les intentions du régime de Kigali actuel. Donc il sort un petit peu de son rôle. Et ce qu'elle montre aussi dans son papier, c'est que pour chacun des deux pays, pour le Rwanda comme pour la France, la vérité sur l'attentat du 6 avril 1994 qui a déclenché le génocide est une question cruciale.
À partir de quand vous avez compris qu'il y avait des massacres ?
Habyarimana est mort le 6 avril 1994.
En Afrique, deux chefs d'État sont morts en même temps. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé. L'appareil aurait été abattu par qui, on ne sait pas encore. Les trois membres d'équipage français sont morts eux aussi. Et cet attentat a provoqué de nouveaux troubles meurtriers à Kigali, la capitale du Rwanda.
Ils ont attaqué Nyarubuye le 15 avril 1994.
L'attentat du 6 avril 1994, peut-être les auditeurs ne s'en souviennent pas, c'est l'attentat contre l'avion du président du Rwanda à l'époque. Et suite à cet attentat, les massacres ont commencé avec le génocide de près d'un million de personnes. C'est cet attentat qui a permis, justifié, l'offensive de l'opposition rwandaise, du Front patriotique rwandais, qui contre le régime de Kigali à l'époque, le régime génocidaire. Le problème pour la France, c'est que à l'époque, Paris avait une coopération militaire avec le régime rwandais. Et donc, la question est de savoir si cette coopération militaire a contribué au génocide en général, et si ce sont des militaires français qui auraient participé à l'attentat du 6 avril 1994. Donc derrière tout ça, c'est toute la politique africaine de la France qui est mise en cause. Avec quelque chose qui dont on paye les pots cassés aujourd'hui, avec cette guerre des ouvrages, des commissions d'enquête, etc., qui est cette culture du secret. Parce que c'est complètement ahurissant dans l'histoire de la coopération de la France avec le Rwanda, c'est que tout a été décidé par l'Élysée. Le Parlement n'était même pas au courant. Le Premier ministre français de l'époque...
C'est une tradition dans les relations africaines. Il y a une cellule, vous le savez mieux que moi, cellule africaine de l'Élysée qui fait ce qu'elle veut depuis bien longtemps.
Qui fait ce qu'elle veut, y compris, on a vu encore récemment quand même des interventions militaires de la France en Centrafrique. Bon, il n'y a pas de débat là-dessus. Pourtant, on voit des jaguars de l'armée française qui interviennent dans un conflit interne, conflit centrafricain. Donc ça compte, tout ça continue. C'est-à-dire, cette culture du secret et de l'ingérence continue.
Rend l'enquête extrêmement, d'autant plus compliquée.
Rend l'enquête extrêmement compliquée. Alors, comme vous savez, les associations, ou certaines associations de citoyens se sont mêlées de cette histoire du Rwanda. Pas toujours à bon escient, à mon avis. Hein. Certaines jettent de l'huile sur le feu, voient des complots partout. Donc, il y a aussi une agitation qui voudrait noircir
excessivement le rôle de la France.
Le rôle de la France. Donc, la vérité est certainement...
Parce qu'au moment du génocide en 1994, La coopération militaire était assez peu active.
Cela dit, les gens qui ont perpétré le génocide avaient été formés par des militaires français. Donc, si, contrairement à ce que disent certaines associations, la France n'est pas forcément une actrice du génocide, elle ne peut pas s'abstraire de sa responsabilité. Parce que, est-ce que les génocidaires auraient pu perpétrer leurs crimes s'il n'y avait pas eu cette formation par l'armée française, si aussi ils ne s'étaient pas sentis couverts par les autorités françaises. Parce que le régime de Kigali se sentait protégé par la France. Donc, toute cette histoire, on n'a pas fini d'en parler. L'intérêt de donner la parole ou la plume à des gens comme Colette Brackmann, c'est que elle fait partie, Colette Brackmann, des meilleurs spécialistes de la région. Elle était présente au moment des faits, elle était au Rwanda au moment du génocide, et elle a un certain recul par rapport à tous ces faits. Donc il y a de quoi manger dans cette enquête de Colette Brackmann, même si l'histoire n'est pas terminée, que nous republierons bien sûr...
Et c'est extraordinairement difficile à faire comprendre, c'est d'abord très difficile à comprendre, et très encore plus difficile à faire comprendre. Quand est-ce qu'on peut considérer, dans des affaires comme celle-là, mais comme dans beaucoup d'autres affaires, qu'on peut arriver à un résultat, quelque chose qui soit clair pour l'opinion?
Je vais peut-être vous décevoir, mais je me demande
si
l'histoire du Rwanda, ça va pas être comme l'assassinat de Kennedy, c'est-à-dire qu'on saura jamais. Parce que, en fait, on saura jamais parce qu'en fait, on sait déjà tout. On ne saura jamais parce qu'on sait déjà tout. Je veux dire par là que c'est une question d'assumer les faits et de leur donner un sens. Mais comme on est dans une situation avec des enjeux politiques et humains extrêmement développés, chacun aura intérêt d'une manière ou d'une autre à camper sur son histoire. Donc le Rwanda, le régime actuel du Rwanda dirigé par Paul Kagame a joué l'innocence qui lui permet par ailleurs de temps en temps d'aller au Congo sous prétexte de poursuivre des génocidaires, mais en fait il s'en est quand même mis plein les fouilles, si je puis dire.
En témoignent les villas génocides qu'on appelle les villas génocides de Kigali.
Oui, et la France aura toujours tendance...
Parce que la poursuite des génocidaires dans l'ex-Zaïre, c'est pas une
c'est pas une poursuite, c'est des massacres organisés systématiquement contre des populations.
Bah, tout à fait, le régime de Kigali s'est lancé officiellement à la poursuite des génocidaires qui s'étaient réfugiés au Congo, mais il en a profité pour se comporter comme une armée d'occupation, à régler des comptes et à utiliser les méthodes les plus expéditives. Faut savoir quand même que le régime de Kigali actuel, c'est un régime militaire, issu d'une rébellion militaire. D'ailleurs, c'est une question à poser en général pour les régimes africains qui sont issus de rébellions militaires. Est-ce qu'on peut construire véritablement une démocratie quand on a cette histoire-là? Et le Rwanda actuel refuse toute enquête sur, d'une part, la guerre qu'il a menée pour prendre le pouvoir en 1994 et sur les exactions qu'il a commises au Congo.
Premier principe, la France n'agira qu'avec un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies.
On ne peut plus attendre, on le voit bien. Il reste des hôpitaux, des églises, quelques lieux, quelques sites où tout n'a pas été massacré.
Deuxième principe, d'autres pays ont décidé de se joindre, selon différentes modalités, à notre action. La France, qui souhaitait ne pas intervenir seule, car elle estime que la dimension internationale de l'opération doit se manifester au-delà des déclarations d'intention, la France est donc entendue.
Il y a donc une extrême urgence. Une force de protection humanitaire se met en train, destinée à assurer la sécurité des populations civiles qui ont échappé à l'extermination.
Troisième principe, il s'agit d'une opération où il peut être fait d'usage de la force, mais avec un objectif uniquement humanitaire, sauver des vies humaines et mettre à l'abri des enfants, des malades, des populations terrorisées.
C'est désormais une affaire d'heures et de jours. Nous en sommes là. Je dois dire que deux ou trois pays africains ont répondu favorablement. J'attends encore les réponses fermes de pays européens. Quoi qu'il en soit, nous le ferons.
Quatrième principe, enfin, l'opération sera de durée limitée. Son terme sera la fin du mois de juillet. Notre action doit avoir pour effet d'accélérer le déploiement de la force des Nations Unies.
Voilà, lancement de l'opération turquoise. Vous avez reconnu évidemment les deux voix, celle d'Edouard Balladur, Premier ministre, en 1994, et celle de François Mitterrand. Il y avait, faut-il le rappeler, cohabitation à cette époque, et évidemment une cohabitation qui n'a pas manqué d'infléchir ce qu'on a appelé l'opération turquoise, et peut-être même de l'inspirer lorsque le président d'alors, François Mitterrand, dit que c'est une affaire d'heures et de jours. C'est quand même au bout de 100 jours. Il a fallu attendre 100 jours pour que le reste du monde bouge sur le Rwanda, 100 jours au cours desquels, eh bien, ce génocide, ces massacres ont eu lieu, et faisant, alors on ne sait toujours pas le nombre exact de victimes, ça va entre 500 000 et 1 million. On ne sait toujours pas. Alors, on avance des chiffres. 750 000, on arrondit à 800 000. Finalement, on ne sait pas très bien. Et il est vrai que on peut espérer, il faut tout faire pour que la vérité soit faite et ne pas se plier devant une fatalité, une impossibilité. Il faut que aussi bien le gouvernement du Rwanda permette toutes les enquêtes et toute la lumière, aussi bien que le gouvernement français, que toutes les archives soient ouvertes pour que la vérité apparaisse dans cette affaire qui tourmente bien en premier lieu évidemment les Rwandais, cette région des Grands Lacs dont n'oublions jamais les suites de ce génocide, 3 millions de morts dans les guerres qui s'en sont suivies, ce qui n'est quand même pas rien. Donc la vérité serait peut-être utile à cette région, sans parler évidemment de nous-mêmes qui avons une implication qu'il s'agit de mesurer dans ce génocide et ces massacres. On continue avec l'équipe du Monde diplomatique autour de ce numéro de janvier 2007.
Encore une chose, Anne-Cécile, il faut rappeler, 94, l'opération turquoise, on est dans une cohabitation. Le président, c'est François Mitterrand, et le Premier ministre, c'est Édouard Balladur, ce qui n'est pas indifférent.
Oui, Balladur prétend d'ailleurs qu'il a appris la plupart des initiatives diplomatiques et politiques de la France au Rwanda par la presse. Donc ce qui, c'est sans doute exagéré, mais ça révèle bien la manière dont fonctionne la politique africaine de la France et dont les citoyens devraient s'occuper un peu plus, parce que c'est l'image de la France en Afrique qui se dégrade, et puis ça a des conséquences concrètes sur la vie des gens. Quand je dis l'image de la France se dégrade en Afrique, on le voit depuis quelques années très nettement. Quand vous allez sur le terrain, moi ça fait plus de 10 ans que j'y vais, on est de plus en plus agressé, interrogé, à propos des initiatives de la France, que ce soit diplomatique, militaire, et comme ça a des conséquences sociales et politiques importantes sur la vie des Africains, il serait intéressant quand même que les Français mettent leur nez là-dedans et demandent des comptes à leurs élus.
Maurice Lemoine veut dire trois mots sur... Ah, j'ai compris.
Sur l'Amérique latine, on a parlé de l'Équateur, des élections de l'Équateur, et puis on a un article sur Augusto Pinochet, la mort de Pinochet. Et ce que je voulais signaler au passage, c'est l'auteur de l'article, qui s'appelle Luis Sepúlveda, qui est un grand écrivain chilien. Tout le monde se souvient, ou en tout cas tout le monde devrait lire le vieux qui lisait des romans d'amour, qui a été son œuvre la plus connue. Et c'est un personnage tout à fait hors du commun. Sepúlveda, c'est un ancien membre du service d'ordre de l'escorte de Salvador Allende, qui l'a accompagné jusqu'au 11 septembre 73, le jour du coup d'État. Il a été évidemment arrêté, il a été condamné à 28 ans de prison, il a été embastillé dans le bagne pour prisonniers politiques de Tumaco. Il a été libéré en 1977 à la suite d'une campagne internationale menée par Amnesty. Une fois libéré, il est parti au Nicaragua où il s'est battu aux côtés des sandinistes pour chasser la dictature de Somoza. C'est un personnage fou d'affaires du commun.
C'est un enragé, alors.
C'est un enragé, oui. Et puis en 82, il est venu visiter la vieille Europe, s'est installé en Allemagne, où il a été camionneur, il a fait 10 000 métiers. Et puis il est parti pour Der Spiegel comme envoyé spécial en Angola, à l'époque où les Cubains se battaient contre l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et puis il réside aujourd'hui en Espagne, et parce qu'à la limite, on pourrait dire sur Pinochet, on a tout dit, on a tout lu, on a tout vu, et le texte qu'on publie, c'est le texte de quelqu'un qui méritait qu'on lui donne la plume, comme disait Anne-Cécile, pour parler de Pinochet.
Très bien. On continue et on finit avec Serge Halimi. Alors, il y a un long papier dans le Diplo sur Internet. Internet, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. C'est l'enthousiasme général, c'est l'enchantement. Alors, du côté de la presse, on s'inquiète quand même un petit peu d'Internet. C'est le cas du Diplo qui essaye de se recycler du côté de la toile. Mais il y a quand même une inquiétude générale. Mais ce papier nous rassure un peu. Ce papier de ce journaliste et ce chercheur américain nous rassure un peu, parce qu'il est en train de nous dire il faudrait peut-être pas... Il amène quelques bémols à notre enthousiasme.
Oui, absolument. On connaît la situation française, la baisse de diffusion de certains journaux, de la plupart des journaux, la disparition de quelques-uns, les menaces sur d'autres, la disparition du pouvoir des sociétés de rédacteurs, l'entrée de Lagardère dans le Capital du Monde, puis de Rothschild, de Rousselet, BHL dans le Capital de Libération.
Et il y a... Rousselet ?
Oui, récemment, oui, dans le Capital de Libération. Mmh. Et avec Bernard-Henri Lévy. Et certains disent, oui, mais peu importe, après tout, ce qui se passe dans la presse écrite, parce que nous, on a Internet. Et l'article d'Eric Kleinenberg, qui est professeur à l'Université de New York, revient un peu sur cette relation entre la presse écrite et Internet, et il nous dit un certain nombre de choses. Il nous dit d'abord, on trouve énormément d'informations sur Internet, mais que valent-elles ? Je dirais que c'est presque le problème d'Internet. On trouve toujours sur Internet ce qu'on cherche. On trouve toujours ce qu'on cherche, même quand ce qu'on cherche est absurde. Vous voulez qu'Elvis Presley soit encore en vie ? Ben, y a des sites pour ça. Et sur chaque site, vous aurez des liens qui vont conforter la théorie selon laquelle Elvis Presley serait en vie. Des sites tout à fait professionnels, bien mis en page et qui donnent l'apparence d'être de vrais médias, comme les plus professionnels et les mieux mis en page. Et comme, à vrai dire, ces sites n'intéressent que ceux qui croient que Elvis Presley est encore en vie et qui n'intéressent pas ceux qui ne croient pas à ce genre de balivernes, on reste entre soi. Mais on reste entre soi gavé d'informations qui confortent sa propre croyance, aussi absurde soit-elle. Entre soi est persuadé d'être infiniment plus nombreux qu'on est en réalité. Parce qu'il suffit d'une connexion en Inde, d'une autre au Mali, d'une troisième en Espagne.
Yep, ça y est, c'est mondial.
Vite, on peut avoir l'impression qu'on a recréé une internationale. Et il n'y a que quand on sort devant son écran qu'on découvre qu'on n'est que 4 ou 5 ou 200 et guère plus influent que les 4 ou 5 personnes ou les 200 qui autrefois distribuaient des textes griffonnés ou ronéotés devant les squares et les stations de métro et qu'on traitait parfois d'excentriques. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est la faible fiabilité de certaines des informations qu'on va retrouver sur Internet. Et dans l'article qu'on publie dans Le Monde Diplomatique donc de janvier, Eric Kleinenberg revient sur un certain nombre de ces bobards qui ont circulé sur Internet et qui ont roulé à la fois des candidats au poste de sénateur de New York et puis un certain nombre de municipalités qui ont interdit des produits qu'ils croyaient être toxiques parce qu'ils avaient vu sur Internet un site annonçant la toxicité d'un produit qui en fait était de l'eau ordinaire.
Donc, c'est formidable. Ça,
ouais. Donc, là, c'est le paradoxe assez extraordinaire d'Internet. Comme les utilisateurs d'Internet ont appris que très souvent sur Internet, on trouvait aussi des bobards, que font-ils maintenant pour être certains qu'une information est fiable ? Eh bien, ils vont chercher une validation de ce qui leur paraît être une information discutable sur les sites officiels des journaux plus ou moins officiels. Certains des sites contre lesquels Internet s'est en partie construit. Vous aviez des gens qui étaient dégoûtés par l'information, par les bobards de guerre qu'ils avaient lus dans le New York Times, dans USA Today, dans Le Monde, dans Libération, qui ont construit des sites sur Internet. Et maintenant, vous avez un certain nombre des utilisateurs des sites Internet, quand ils voient une information, comme ils doutent de sa fiabilité, ils vont voir si le New York Times, ou Le Monde, ou Libération, ou USA Today, confirment ce qui leur paraît être étonnant. Ce qui est un formidable paradoxe, vous accordez en fait de la fiabilité à des médias contre lesquels vous vous êtes construit. Alors, troisième problème qu'évoque Eric Kleinenberg à propos d'Internet, non seulement vous avez parfois des regroupements d'illuminés, non seulement vous avez la validation paradoxale de certains médias, mais aussi, il faut le constater aussi, également, une très grande absence d'originalité de ce qu'on retrouve sur la plupart des sites Internet, puisque pour nourrir leurs sites, les responsables les alimentent largement d'articles de journaux institutionnels et de dépêches d'agences. Et souvent, ils se contentent de ça, auxquels ils ajoutent des commentaires du type « je suis d'accord, pas d'accord avec Sarkozy, je pense ceci ou je pense cela », et de commentaires qui sont plus souvent justement des commentaires, des ruades, que des analyses ou des informations. Et Ce que souligne aussi Eric Kleinenberg, c'est que ce type de dispositif vaut maintenant de plus en plus aussi pour les sites quotidiens qui sont eux-mêmes alimentés de dépêches d'agences qu'ils n'auraient pas forcément reprises dans leur page. D'où une impression d'abondance, mais en même temps un effet que j'appellerais « galerie des glaces » qui recycle à l'infini d'un site à l'autre les mêmes contenus. Et on en arrive à ce que les journaux supprime des emplois de journalistes, susceptibles, cas échéant, de conduire des enquêtes, pour créer à la place des emplois sur leur site Internet, lesquels emploient sur les sites internet mettent en scène des contenus trouvés ailleurs, au moins aussi souvent qu'ils ne les créent.
C'est ça, c'est-à-dire que le premier travail du journaliste est dans l'enquête, tout simplement. Ça, c'est la partie, la portion congrue, maintenant. Mais par contre, la bulle du commentaire se généralise, mais avec un émiettement, une atomisation, comme ça, du commentaire, et de commentaire, jusqu'à un poudroiement, une disparition.
En même temps, un émiettement et un effet d'écho, où on retrouve les mêmes informations, les mêmes dépêches, et où on a le sentiment qu'elles sont confirmées par le fait même qu'elles sont reprises d'un site à l'autre. Alors même qu'il n'y a pas, en quelque sorte, de contrôle de qualité au départ.
Oui.
Absence de contrôle de qualité au départ, multiplication à l'arrivée, sentiment que la vérité est établie.
Et Kleinender donne des exemples formidables.
Il donne un certain nombre d'exemples tirés de l'expérience américaine. Et quand on a dit tout ça, on n'a pas encore tout dit, puisque avec les blogs, vous avez maintenant la possibilité de faire éclater des collectifs, qui sont des collectifs politiques, associatifs, des collectifs de journalistes, au profit de la juxtaposition de commentaires individuels. Et les blogs deviennent alors des espèces de nombrils électroniques, bien en phase avec l'idéologie individualiste du capitalisme, y compris quand ce capitalisme, ils le combattent par ailleurs. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier type de problème. Qu'est-ce qu'on trouve? Quelle est la qualité de ce qu'on trouve sur Internet? Le deuxième type de problème, puisqu'on parle de chiffres, c'est de voir que, au fond, le chiffre n'est pas tout. Une fois qu'on est passé de la qualité à la quantité, qu'est-ce qu'on constate en termes de chiffres? D'abord que de plus en plus, les sites comptabilisent leurs connexions, les visiteurs uniques, les nombres de pages vues, qu'ils évaluent les mots-clés, qu'ils valorisent les sites amis qui leur rapportent plus de trafic. Et c'est donc une approche comptable de l'information. Une approche comptable, quantitative et statistique, dont certains blogueurs eux-mêmes, puisqu'on trouve ça maintenant sur un certain nombre de sites, certaines de ces objections, certains de ces commentaires, certains de ces regards critiques, dont certains blogueurs eux-mêmes admettent que cette approche comptable les place dans le droit fil des médias traditionnels contre lesquels ils se sont construits. Puisque l'audimat, en somme, l'emporte sur le fond. Car pour certains sites, ce n'est pas le contenu qui compte, ce n'est pas la qualité de l'information qu'on a apportée, mais le trafic généré. Alors, il ne leur restera bientôt plus qu'à vendre aux annonceurs leur trafic, au risque de devenir des portails publicitaires, un peu comme le Nouvel Observateur sert en période de fête de catalogue aux Galeries Lafayette. Ce média alternatif, donc, risque d'être de moins en moins alternatif. Et nous rappelle Kleinenberg, déjà, les sites internet les plus populaires, puisqu'on parle de chiffres, ne sont absolument pas les plus dissidents. Quels sont les chiffres, les portails, les sites les plus populaires? Ce sont ceux qu'il appelle television.com et presseécrite.com. Aux États-Unis, selon un rapport de l'année dernière, les sites les plus populaires sont associés aux groupes de médias les plus puissants. Parmi les 20 sites les plus visités en 2005, 17 étaient liés à des groupes d'information traditionnels, c'est-à-dire produisaient l'essentiel de leur contenu mis en ligne pour des quotidiens, des chaînes de télévision et des magazines. Et en décembre 2005, les chiffres qu'il donne dans son article sont pour les sites qui attirent plus de 10 millions de visiteurs uniques, en tête Yahoo News, MSNBC, CNN, AOL, Gannett, New York Times, Los Angeles Times, USA Today. Ce sont les sites qui attirent le plus, en quelque sorte, de visiteurs. Donc on a construit quelque chose qui se veut une logique alternative et qui, dans certains cas, l'est, mais qui, pour l'essentiel, attire des utilisateurs sur les médias traditionnels, qui sont juste déclinés maintenant sur Internet. Et puisqu'on parle de chiffres, autre rappel de l'article de Kleinenberg, Internet reste inégalitaire. Très inégalitaire. Inégalité dans le monde. En fin 2004, on estime à 840 millions le nombre d'abonnés à l'Internet sur la planète, soit environ 13% de la population mondiale. Eh bien, environ 60% des bénéficiaires d'Internet habitent en Europe et sur le continent américain, tandis que moins de 3% vivent sur le continent africain. Donc on va le voir, et on va le voir à plusieurs reprises.
Alors, on appelle déjà ça la fracture numérique.
Voilà. Oui. Ce sont en quelque sorte ceux qui sont déjà les mieux informés qui disposent d'un outil supplémentaire pour s'informer davantage. Ce sont les mieux informés, les plus privilégiés, les mieux instruits qui ont le plus accès à cet instrument qui, pour certains, est d'abord un instrument de dissidence. Et la fracture devient un gouffre quand il s'agit de comparer le nombre d'utilisateurs qui accèdent à l'Internet grâce à une connexion à haut débit. 60% de ces utilisateurs sont américains ou européens, 40% asiatiques, un peu moins de 40% asiatiques, parce qu'il y a 0,1% d'Africains. Et cette inégalité, on ne la trouve pas uniquement entre le Nord et le Sud, on la trouve évidemment à l'intérieur des pays eux-mêmes, puisqu'aux États-Unis, par exemple, l'année dernière, 21% de la population n'a pas utilisé Internet une seule fois. 21%, c'est tout de même énorme, qui n'ont pas utilisé Internet une seule fois. Un tiers de la population américaine qui ne dispose pas d'une connexion à domicile, et parmi ceux qui en sont pourvus, moins de la moitié qui profitent du haut débit, qui leur permet d'accéder facilement aux fichiers de son et d'images. Même inégalité d'accès à Internet en France, puisque selon l'Observatoire des inégalités, en 2005, 41% de l'ensemble de la population française était connectée à Internet à domicile. C'est-à-dire une minorité, mais 79% des cadres et des professions intellectuelles supérieures, contre 42% des employés, 31% des ouvriers et 14% des retraités. Et on retrouve la même chose lorsqu'il s'agit du niveau d'études, naturellement. 11% des titulaires au mieux d'un certificat d'études primaires sont connectés à domicile, contre 71% des diplômés du supérieur. Et on retrouve la même fracture quand il s'agit de voir ce qu'on fait d'Internet, de l'utilisation d'Internet. Est-ce qu'on utilise Internet pour aller dans les librairies, dans les librairies mondiales, pour se renseigner, pour se construire une culture, pour aller dans les musées, etc. Peut-être.
Peut-être.
Bon, d'abord, quand vous posez la question, il y a une réponse que vous n'obtenez jamais, qui est les sites pornographiques.
Oui, ce qui fait on dit que c'est la moitié du trafic.
Personne. Les sites pornographiques, vous avez 0% dans les sondages. Mais quand les gens répondent, on apprend que, par exemple, l'échange de mails concerne 78% des cadres, mais seulement 44% des ouvriers. Qu'en revanche, les cadres ne sont que 44% à utiliser leur ordinateur pour le jeu, contre 64% des ouvriers. Et au fond, quand on réfléchit à tout ça, ça pose un problème de fond, c'est qu'en ce moment, Internet est utilisé par les libéraux pour nier l'utilité d'une réglementation des grands médias. Ils vous disent « ça n'est pas la peine de réglementer la propriété des grandes chaînes de télévision ou des radios ou de la presse écrite. Si vous voulez la diversité, vous pouvez la trouver sur Internet. » En d'autres termes, circuler, il n'y a rien à voir pour la télévision, la radio, la presse écrite. La diversité, elle existe sur Internet. Et dans son article, Eric Kleinenberg cite d'ailleurs à ce propos l'analyse d'un chercheur de la Fondation Héritage, qui est une fondation d'extrême droite aux États-Unis, qui prétend, par exemple, maintenant, que les seuils de concentration nuiraient au public. Et je le cite, « Plutôt que des médias en position de monopole, les consommateurs font face à un choix sans précédent et presque déconcertant pour eux. » Et donc là, il y a ce problème. On le voit donc, derrière les avantages incontestables procurés par Internet, se posent bien des questions sur la fiabilité, les sites sur Elvis Presley, l'originalité, quand c'est le collage de dépêches d'agence, l'éclatement des collectifs, quand vous avez de plus en plus de blogs narcissiques, la place des multinationales, quand ce sont d'abord les sites des grands médias les plus pourvus en argent qui sont les plus consultés, l'égalité d'accès entre le Nord et le Sud, entre les riches et les pauvres, et enfin, l'usage politique que font les libéraux de la prétendue diversité d'Internet pour nier l'importance d'un contrôle de la propriété des médias de masse, télévision, radio, presse, par des multinationales. Et on a donc, en quelque sorte, tout ça dans l'article d'Eric Kleinenberg qui est tiré d'un livre qui paraît en ce moment aux États-Unis.
De bons éditeurs ne manqueront pas de traduire et de diffuser largement. Il y a beaucoup d'autres choses évidemment à dire sur le net et notamment en ce qu'il favorise la délation. C'est pas un moindre de ces aspects à côté bien évidemment des avantages qu'il faut souligner. Merci à l'équipe du Monde Diplomatique, Maurice Lemoine, Martine Bullard, Anne-Cécile Robert, Dominique Vidal et Jean-Marie Pernaud. On les a pas tous entendus, par exemple Martine Bullard et Jean-Marie Pernaud, mais on les retrouvera demain. Demain, il y aura une suite à ce Monde Diplomatique, notamment une intervention de Dominique Vidal, très attendue et qui risque de faire un peu de bruit dans l'Anderneau. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas si j'y suis, et vous pouvez aller sur Internet écouter cette émission et beaucoup d'autres sur le site www.labas.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Pierrick Monsigny. C'est Yann Chouquet et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission, modeste et géniale, assistée de Pascal Leu, Pascariello, et de Christophe Imbert au répondeur. Le numéro, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Alors là, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir dans quelques secondes comme pub, et si ça va être la même chose qu'hier. Je voudrais finir cette heure avec un petit mot, beaucoup de vœux dans les mails et sur les messages, et par courrier aussi, de la part des AMG, des auditeurs modestes et géniaux de cette émission. Un petit mot d'Hélène Maurice qui nous dit: l'important n'est pas d'ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années.